Au micro, Ilan Rosanquier qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Le 30 octobre prochain, plus de 6,5 millions d'Israéliens âgés de plus de 17 ans seront appelés à se rendre aux rues, aux urnes, pour participer aux élections municipales et régionales en Israël. Ils devront élire 251 conseils municipaux et régionaux. Pour parler de ce vote important, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Elisabeth Garot, qui est militante associative et candidate également aux élections municipales sur une liste à Jérusalem. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Alain.
Et merci d'être en direct avec nous. Comme je l'ai dit, le 30 octobre auront lieu ces élections municipales. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer un petit peu le modus operandi, comment se déroulent ces élections, qui sont concernés, quelles sont les personnes concernées, toutes les combien elles se déroulent, etc.
Alors, les élections municipales ont lieu tous les 5 ans. Elles n'ont pas beaucoup de points communs avec les élections municipales en France où vous élisez un conseil municipal. La liste qui a la majorité des voix, la tête de liste est généralement le maire et le reste de la liste se partage à la proportionnelle les sièges restants. Là, c'est pas du tout ça. On vote deux fois. Une fois pour élire le maire et une fois pour élire le conseil municipal. Alors la cohérence voudrait que ceux qui choisissent un maire choisissent sa liste, ben, ce n'est pas forcément le cas. Et en plus, il y a des tractations qui se passent en amont, où quand une liste municipale, elle voit le maire qui serait vraiment son candidat à elle, eh bien, il y a des accords souvent écrits de façon à ce que lorsqu'ils siégeront au conseil municipal, ils pourront faire avancer les thèmes qu'ils pensent être justes pour eux. Et donc, le maire, lui, est élu au scrutin majoritaire. S'il a plus de 40% des voix, il est élu au premier tour. Et le conseil municipal, là, c'est de la pure proportionnelle. En fonction du nombre de voix récoltées, on a un certain nombre de sièges. Et pour la petite histoire, quand on a 3 sièges, on peut devenir adjoint au maire. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué qu'en France.
D'accord. Et le deuxième tour, donc, devra avoir lieu, au cas où le maire n'aurait pas plus de 40%, le deuxième tour est prévu pour le 13 novembre, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, il y a une nouveauté cette année, c'est qu'il y a une possibilité de prendre un jour de congé. Est-ce à dire que le taux de participation à ces élections est généralement faible et qu'on espère qu'avec un jour de congé, les gens iront davantage voter? C'était ça l'objet de la manœuvre?
Oui, ça c'est une très bonne question. C'est vrai que l'abstention fait des ravages, 60-70% parfois. Pour la petite histoire, ce sont les municipalités arabes qui votent le plus. En Israël, elles se sont très concernées. En revanche, dans les grandes villes, oui, il y a peu qui se déplacent. On espère. Alors en plus, il y aura un jour de congé pour le premier tour, mais pas pour le second. Mais on espère qu'au premier tour, ça va mobiliser les laïcs. Parce que dans les élections antérieures, on s'était surtout rendu compte que les ultra-orthodoxes se mobilisent souvent à 70% de leur corps électoral, alors que les laïcs, c'est un peu plus de 30%, donc ça pourrait peut-être faire changer la donne.
D'accord. Aux élections législatives, c'est les Arabes qui votent en masse et qui viennent en autobus aux urnes. Et donc, aux élections municipales, ce sont les ultra-orthodoxes qui votent en masse.
Absolument, parce qu'ils ont leurs intérêts bien compris aussi au sein des municipalités.
Oui, bien entendu. Alors, on a l'impression, vu d'ici, que les grandes thématiques nationales, les problèmes qui agitent la vie politique israélienne sont plutôt absentes de ces élections municipales. Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
Peut-être qu'en France, on fait encore le parallèle avec les élections municipales françaises où je pense que les observateurs vont être très attentifs aux résultats, punition ou pas pour le gouvernement en place, etc. Parce que ce sont des élections pas éminemment politiques, c'est pas vrai, parce que ça tient à la personnalité du maire souvent. Et parfois, il n'y a même pas d'étiquette. Mais ça dit quelque chose. Est-ce que la majorité en place va remporter les grandes villes ou pas? Ce sont des ce sont des enjeux réels en France, dans le cadre de ce qu'on appelle les grandes élections intermédiaires. En Israël, pas du tout. Dans la presse francophone israélienne, on fait aussi la même erreur. Il y a beaucoup d'intox. On parle de ce que pourrait faire le maire pour la problématique de la Alia, alors que ça ne relève uniquement que du ministère de l'Intégration. On parle des logements, alors qu'il n'a pas de HLM comme en France.
Alors, justement, qu'est-ce qu'il peut faire le maire? Quelle est un peu l'étendue de ses pouvoirs?
Alors oui, et pour terminer, le maire, par exemple, à Jérusalem, ne va certainement pas régler les problèmes de la ville. Et quand il y a des histoires d'intifada, comme les intifadas au couteau qu'on a connues il y a quelques mois, le maire, il ne peut rien faire. Donc il n'a pas du tout ce genre de prérogatives. Donc ce ne sont pas des élections politiques. Certains maires sont encartés. Ce n'est pas parce que certains vont perdre, parce qu'il n'y a pas un mois où il n'y a pas un scandale de corruption. Ce n'est pas parce qu'un maire sera peut-être ou peut-être pas puni au moment des élections que ça dira quelque chose sur le parti auquel il est encarté. Donc vraiment, on n'aura pas de lecture, on ne pourra pas dire les élections anticipées qui se profilent bientôt. Pour les législatives, on pourra s'appuyer sur les résultats des municipales pour dire ce que ça sera. Alors là, on fait vraiment fausse route. Et pour répondre à votre question, eh bien, le maire en Israël, il s'occupe, il donne des services, l'approvisionnement en eau, par exemple, les problèmes d'égout, les problèmes, évidemment, la gestion des ordures, les pavages et l'entretien des routes, l'entretien des jardins publics. De quoi il s'occupe d'autre? Il s'occupe des institutions sportives, éducatives, culturelles. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la mairie et le conseil municipal sont sous la tutelle du ministère des Finances, qui, lui, contrôle l'équilibre budgétaire. Là aussi, on ne peut pas imaginer les grandes villes comme en France, le Valois-Perret, la ville la plus endettée de France, là, ça n'existe pas. C'est, le ministère des Finances est tellement important qu'il a un tel pouvoir qu'il peut même dissoudre un conseil municipal en cas de mauvaise gestion.
Mais il y a quand même un certain nombre de conseils municipaux et de conseils régionaux, en particulier dans le secteur arabe, qui sont en déficit chronique et qui...
Oui, c'est vrai. Mais on va dire que globalement, les mairies arrivent à collecter à travers les impôts fonciers, enfin les impôts locaux, 25% de leur budget, 75% est donné par l'État. Alors bien sûr, là aussi, c'est aussi politique, même s'il y a des endroits où ça se passe mal, il y a quand même des enjeux de paix sociale qui font qu'on n'est pas aussi regardant sur la rigueur budgétaire qu'on ne peut l'être, par exemple, au sein de la Commission européenne.
Alors, on a l'impression que les partis ou les forces qui se rattachent à ce que, globalement, on pourrait appeler le camp de la paix ou la gauche au sens israélien, se présentent dans les villes en ordre dispersé. Pourquoi cet émiettement et n'y a-t-il pas un risque effectivement de déperdition d'ivoire, de voix par des petites listes qui n'obtiendront pas suffisamment de voix pour pouvoir être éligibles?
Alors d'abord, au niveau, si on parle uniquement du maire, il y a des endroits où les partis n'ont pas présenté de maire parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Donc il valait mieux aller sur des listes pour le conseil municipal. Par exemple, à Jérusalem, il n'y a pas de candidat à Voda. Alors qu'il y a trois candidats qui seront qualifiés de droite. Mais les déperditions de voix et la crise des partis politiques, elle existe partout. Vous l'avez en France, on l'a aussi en Israël. En Israël, sur la mairie de Jérusalem, il y a trois candidats de droite, avec un candidat Likoud soutenu par le maire sortant et par Benjamin Netanyahou, qui est même allé à Marané Yehuda pour faire sa campagne il y a trois jours. Et malgré tout, il n'est pas soutenu par la centrale du Likoud locale, qui préfère soutenir le candidat Berkovitch, qui lui est plutôt à droite, qui est qualifié de centre-droit. Et il y a aussi un autre candidat qui est Moshe Leon. Si on parle que de Jérusalem...
Alors, puisqu'on est sur Jérusalem, qu'il ne reste plus beaucoup de temps, au niveau de la gauche, là aussi, il y a une liste Meretz, et puis il y a la liste de cet avocat.
Oui, parce pense que les gens de gauche ont été attirés par plutôt que bon, ils ont reproché à Meretz de beaucoup parler et de peu faire. Et il se trouve que Ravillio, qui a eu le prix contre la corruption il n'y a pas très longtemps, Ravillio, lui, a mené une liste avec des objectifs très clairs sur la défense de la laïcité. Et comme il a beaucoup lutté contre la corruption et contre ce que faisaient les coups de boutoir de la municipalité contre les laïcs, en refaisant rouvrir des choses le Shabbat, par exemple, en luttant pour la Gay Pride, etc., des tas de thèmes où il a gagné. Et donc, ça a donné envie à des gens qui sont vraiment des laïcs, en se disant, bon, entre un parti qui fait que parler et quelqu'un qui concrètement a agi et a réussi, on va vers celui qui a agi et qui a réussi.
Et vous-même, donc, qui habituellement votez Meretz et qui, cette fois, vous êtes candidate sur cette liste, il n'y avait pas, et donc vous connaissez bien les choses de l'intérieur, il n'y avait pas la possibilité, par exemple, d'arriver à un accord entre cette liste et la liste du Meretz, justement, sur les grandes questions de la laïcité qui sont quand même importantes à Jérusalem.
L'accord se fera au moment du vote au conseil municipal. Il est évident que, et Ravillio l'a dit, et Rodi et Meretz aussi, ils vont évidemment travailler ensemble. Mais Israël n'est pas vraiment, là aussi, il faut oublier la grille française, Israël n'est pas vraiment un pays d'opposition, mais où on s'oppose systématiquement quand on est au gouvernement ou quand on est dans un poste de responsabilité. S'il y a quelque chose pour le bien commun, parfois on a des alliances qu'on qualifie parfois de carpe et de lapin, mais ce n'est pas nécessairement vrai. On peut être à droite et laïque. On
peut être
à gauche.
Heureusement.
Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué que ça.
D'accord. Autre thématique importante à Jérusalem, c'est celle du vote des Arabes en peu de temps, puisqu'on arrive au terme de notre émission. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une participation plus importante
Non, malheureusement, non. Il y a eu une tentative de dénommer M. Abou Sassara qui a essayé de se présenter. Et le Waqf a posé une fatwa, le Moufti aussi. Il a vécu dans la terreur, il a été menacé de son côté, côté arabe.
Oui.
Il a fini par retirer sa candidature. Non, malheureusement, on n'en est pas là, loin de là.
Donc on ne devrait pas être très éloigné du chiffre des votants de 2013
non,
où il y a eu moins d'1% de résidents arabes qui ont participé au vote, sachant qu'il y a un sondage qui est paru et qui indiquait que 73% des résidents arabes n'avaient pas l'intention de participer
au vote. Il y a une autre liste qui se présente uniquement sur une thématique très communautaire, très particulière dans un quartier de Jérusalem. Ben, on espère pour lui, parce qu'il y a quand même un seuil aussi d'inéligibilité. Oui, on espère qu'il va pouvoir le passer et qu'il siégera.
D'accord. Et ben, nous arrivons au terme de notre émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance à vous-même pour votre élection. Et nul doute que nous aurons l'occasion de revenir sur ces résultats. Je signale à nos auditeurs que le 8 novembre sera organisée la 23e commémoration de l'assassinat d'Yitzhak Rabin à la mairie du 4e, en présence de Mme Aliza Ben-Noun, ambassadrice d'Israël en France. Je vous invite à visiter le site de La Paix Maintenant, www.lapaixmaintenant.org, sur lequel vous trouverez toutes les informations de cette soirée et de bien d'autres encore. À tous nos auditeurs et auditrices, Shabbat Shalom.